On est de retour à la zone payante et c'est le temps de passer à travers la partie qu'on a tous appréciée. Je pense que c'est assez unanime. Autant le show de la demi était apprécié, autant le match, franchement, n'a pas laissé grand monde sur leur appétit.
C'était à l'image des présentes séries. Ça a été comme ça tout le long.
Exact. Alors, dans notre match d'aujourd'hui, on va un peu décortiquer ce Super Bowl. Puis, à tout seigneur, tout honneur, là, Johnny Boy, t'as quand même été lui qui a vu juste entre mes experts qui se remportera le match du Super Bowl.
J'avais même le MVP.
Et pas le résultat.
J'étais plus proche du score que toi, par exemple.
Ouais. Je pensais honnêtement que ça serait un petit peu moins serré.
Mais il y a ça, moi, qui m'a surpris. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que je voyais qui donnaient une volée aux Rams. Puis, tu sais, j'ai trouvé que jusqu'à la fin, on a un peu manqué de respect aux Bengals.
Jean, quelle est ta lecture du match?
Ben, je pense qu'il y a plusieurs constats à tirer. Le premier, c'est qu'à Los Angeles, il y a des vedettes, puis les vedettes, ben, dans les grands moments, ils se présentent, puis ça a été le cas des Rams. Écoute, le seul joueur, je trouve, potentiellement vedette, qui a eu un moins bon match un peu, c'est Jalen Ramsey.
Ouais.
Mais le reste, je veux dire, que ça soit Von Miller, que ça soit OBJ avant sa blessure, il y avait un bon match aussi. Matthew Stafford a démontré pourquoi on est allé chercher pour gagner un championnat, parce que quand ça a été le temps, dans la séquence offensive la plus importante, je dirais même de peut-être l'histoire de la concession, mais Matthew Stafford a été très, très bon. Évidemment, les deux meilleurs joueurs des Rams se sont levés également, que ce soit Cooper Kupp avec ses deux touchés, et Aaron Donald, messieurs, que dire du sympathique joueur de ligne défensive. Le jeu qu'il a fait à 3-1 sur la dernière séquence des Bengals, quand il y a un joueur qui est en train de le bloquer, à un seul bras, il prend Perrine puis il l'arrête à lui seul. Tu sais, le monde réalise pas, là, c'est des porteurs de ballon de la NFL, là, tu fais pas ce que tu veux avec ces gars-là. Là. Et lui, à un bras, il a dit à un porteur de ballon de puissance, non, tu vas pas chercher le first down, ça arrête ici. Ça a été un jeu absolument exceptionnel. Puis évidemment, le jeu d'après, ben sa pression a fait en sorte que Joe Burrow était obligé de lancer une grenade, puis ça en était fait des Bengals. Mais Aaron Donald a été excellent. Pour moi, un gros ajustement, écoute, je veux pas nécessairement rentrer trop dans les X et les O, mais les Rams se sont ajustés défensivement, je dirais, à la fin du deuxième quart. Ils se sont aperçus que le centre offensif des Bengals, il allait toujours aider sur Aaron Donald. Fait que ce qu'ils ont fait à partir de ce moment-là, à plusieurs reprises, ils ont mis 5 joueurs sur la ligne de mêlée, puis il y en a un qui s'en allait en couverture. Donc, ce que ça faisait, puis souvent, c'était du bord d'Aaron Donald que le joueur allait en couverture. Donc, ce que ça faisait, c'est que tu avais 3 joueurs de ligne des Rams qui s'en allaient sur un seul joueur qui est Donald. Et de l'autre côté, tu avais un avantage frappant parce que tu avais 3 joueurs de ligne défensive qui attaquaient 2 joueurs ou 2 bloqueurs des Bengals. Puis là, les Bengals, à partir de ce moment-là, ont eu vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Et à la seconde qu'ils ont arrêté de doubler Donald, ben évidemment, ça a ouvert la porte à des 1 contre 1. Puis on a vu à quel point la ligne à l'attaque des Bengals était poreuse. Donc, ça a été vraiment un gros ajustement, ça, de la défensive des Rams. Ça a changé, pour moi, je trouve, l'allure du match. Parce que, on va se le dire, malgré tout ça, les Bengals étaient non seulement dans le match, mais étaient vraiment tout près de remporter cette bataille-là.
Mais quel impact a eu, mettons, le début aussi de la deuxième demi pour les Bengals? Tu sais, l'interception, puis le long touché à Higgins, c'est là qu'il aurait dû comme mettre le dernier clou dans la...
Exact. Ils n'ont jamais été capables de le faire, mais c'est là aussi que la défensive s'est ajoutée beaucoup des Rams, puis c'est devenu difficile un peu offensivement à partir de ce moment-là du côté de Cincinnati. Puis ça, je vais donner du crédit aux Rams. Je veux pas l'en enlever en disant que les Bengals ont mal fait. Les Bengals, ils savaient que ça serait difficile. Puis les Bengals, ils avaient fait leur devoir, les gars, là, en première demi.
Ils ont très dit, bien joué offensivement, ça aligne.
Exact. Puis ils avaient bien joué offensivement, puis, mais ils s'étaient ajustés aussi. Joe Burrow, il a lancé des passes après 2 points. Écoute, sa moyenne, c'est 2,4 secondes pour lancer ses passes en première demi. Écoute, c'est vraiment pas long, là. Évidemment, ben tranquillement aussi, les Rams, la couverture s'est ajustée. Ils ont dit, écoute, ils font juste un attaquer rapidement dans les zones courtes. Donc, on va resserrer ça un petit peu. Puis dès que la protection demandait un peu plus longtemps pour attaquer justement les zones profondes, ben ça flanchait à chaque fois, là. Le nombre de play action aussi qui a été appelé dans un match normal des Bengals, je disais que c'était comme entre 7 et 10. Écoute, il y a eu 2 play action d'appelé durant tout le match du côté des Bengals. Puis ça, c'est conservateur, mais c'est au fait que t'as pas le choix. Tu le sais que t'as pas une bonne ligne offensive. Ouais. Faut que tu fasses avec, puis faut que tu protèges, t'essayes de protéger ton carrière de la meilleure façon que tu peux. Puis écoute, ça a juste flanché à un certain moment donné. Écoute, Joe Burrow, ça reste quand même le seul carrière de l'histoire qui s'est rendu au Super Bowl avec une saison de plus de 50 sacks sur lui. En série, c'est maintenant le carrière qui est allé au Super Bowl avec le plus de sacks. Écoute, si on prend juste 2 matchs de série, il y a 16 sacks, les gars. C'est astronomique. C'est incroyable. C'est pas normal que ce soit rendu
là. Le seul côté positif, c'est que les Bengals, ils n'ont pas à se poser de grosses questions sur leur saison morte. Disons-le comme ça, là.
Non,
c'est compliqué, là. C'est pas compliqué. Où c'est qu'on investit, les gars, là? Je pense que c'est assez clair.
Mais faut donner aussi du crédit aux Bengals parce que défensivement, puis on n'a pas assez parlé peut-être de la défensive des Bengals qui a été vraiment bonne durant toutes les séries. Les Rams ont essayé de courir la balle 23 fois. Ils ont gagné 43 verges.
Incroyable. Les statistiques, c'est dégueulasse. C'est incroyable qu'ils aient autant de possessions.
Ils ont absolument fermé la porte complètement de ce côté-là aux Rams. Puis moi, je pensais que les Rams seraient capables de courir le ballon un petit peu face au front défensif des Bengals. Ça n'a pas été le cas du tout, du tout, du tout. Puis ils étaient vraiment pas loin. Eli Apple a eu un match difficile.
Ouais.
Après un très bon match contre les Chiefs, il y a eu un match très, très difficile. Puis c'est ça qui explique un peu la victoire des Rams.
Mais deuxième essai là, dans notre match, j'aimerais ça aller de ton côté, Stéphane, parce qu'on a parlé toute la saison là, de la façon dont les Rams bâtissaient leur équipe. C'est comme un peu ils ont eu raison. Là. C'est comme si finalement, là, tous ceux qui se disent « Ah ouais, mais là, faut bâtir son équipe puis avec par des choix repêchage, puis un système de développement. » Ouais, mais là, en tout cas, cette année, ils ont prouvé que tu peux faire autrement.
Ouais, honnêtement, c'est une approche qu'on va probablement revoir un peu plus qu'on le voyait par le passé, mais je suis pas convaincu non plus que c'est, tu sais, comme la consécration, que maintenant c'est la voie à suivre. Puis ça a marché, ça c'est sûr, puis personne va leur enlever. Mais combien de fois ça a marché avant? Puis combien de fois ça va marcher dans le futur? C'est ça qu'il faut se demander aussi. Tu sais, là, c'est numéro 1. Mais il y a une affaire que les Rams ont fait, puis il y a pas grand monde qui en parle. Puis j'en avais glissé un mot, je pense, dans notre émission de la semaine passée. C'est que malgré les apparences, tu sais, ils ont échangé beaucoup de premiers choix, mais ils ont très, très, très bien repêché. Puis ils ont eu de nombreux choix au repêchage. Mais c'est dans les rondes plus tard. Tu sais, les rondes 3, 4, 5, 6, 7.
Cooper Kupp, ils l'ont repêché.
Et ils l'ont repêché en troisième ronde. Il y a 2 joueurs, je pense, sur leur ligne offensive, 4e ronde et plus. Des joueurs dans tertiaire, des choix de 6e ronde. Tu sais, un Darius Williams. Cam Akers, un choix de 2. Van Jefferson, un choix de 2. Il y en a plein, là. Tu sais, on a même vu jouer Skoronek, le receveur. C'est un choix de 7e ronde, ça, je pense. Il y a plusieurs choix comme ça que les Rams ont fait qui leur ont permis justement d'aller all-in avec des vedettes en se disant « c'est pas grave, on a une certaine profondeur avec nos choix qui nous coûtent des peanuts ». C'est comme ça que ça a fonctionné. Ça, c'est pas toutes les équipes qui sont capables de repêcher comme ça aussi tardivement. Ça, c'est une chose. Un autre point, tu sais, il y a le facteur Los Angeles, là, les gars. Faut pas se le cacher. Là. Les gars veulent aller jouer là. C'est une destination intéressante. On en a parlé, le gratin. Tu sais, il y a quelque chose de spécial dans cette ville-là oui. Que tu peux pas reproduire nécessairement si t'es, je le sais pas moi, à Buffalo, n'importe où. Là. C'est des marchés super trippants pour la passion des fans qui est beaucoup plus forte que les fans de Los Angeles probablement. Mais il y a quand même quelque chose, il y a un aura autour de cette ville-là, tu sais, c'est le glamour. Ça, c'est un facteur que tu peux pas reproduire n'importe où ailleurs. Puis, il faut donner beaucoup de mérite à Sean McVay, je pense, dans tout ça. Écoute, c'est pas facile de faire fonctionner un vestiaire avec des vedettes de tout plein d'horizons. Tu sais, t'amènes Jalen Ramsey de Jacksonville. Tu sais, écoute, il était dans une culture perdante là-bas. Andrew Whitworth, tu l'amènes de Cincinnati. C'était pas facile non plus. T'amènes Von Miller de Denver. Tu sais, c'est un autre environnement complètement différent. Odell Beckham, on savait plus trop, tu sais, est-ce qu'il était encore motivé ou quoi. Puis, tu sais, là, il avait souffert à Cleveland pendant quelques années. Il était plus à son niveau. Tout ça mis ensemble, c'était pas sûr que ça allait fonctionner. Je pense que McVay mérite beaucoup d'attention là-dessus. On parle de lui toujours, toujours, toujours pour les mêmes raisons. Ah, c'est un stratège offensif incroyable, les X, les O. Il est en avant de tout le monde. C'est un innovateur.
Okay, mais finalement, mais c'est un gars qui est capable de rassembler aussi, là.
Ben, je pense qu'il faut juste le mentionner parce que c'est pas tous les coachs là. Écoute, il y en a eu dans le passé des tentatives de monter des clubs avec des vedettes. Rappelez-vous les Eagles. C'est-tu Michael Vick qui avait dit on a le potentiel pour être une dynastie parce qu'on amenait un paquet de joueurs là. Puis hey là, ça avait l'air invincible quand on regardait ça. Puis finalement, c'était bien ordinaire. C'est arrivé par le passé qu'on a tenté un peu des approches similaires, peut-être pas au point agressif comme les Rams l'ont fait, mais c'est pas évident de faire pogner tout ce monde-là, de faire prendre la sauce. Puis ça, là-dessus, ben moi, honnêtement, je donne beaucoup, beaucoup de mérite à Sean McVay. Là où tout le monde voit un coach de X et de O, là, j'ai l'impression que Sean McVay a été un excellent CEO, un excellent psychologue, puis qui a fait marcher un peu tout le monde dans ce moule-là.
OK, troisième essai, les boys. On va y aller avec l'avenir parce que là, le match est derrière nous. Le Super Bowl a été remporté par les Rams. Mais il y a un autre Super Bowl qui va se jouer en Arizona l'an prochain. Et là, j'aimerais ça qu'on regarde un peu les forces en présence. Parce que là, on dirait qu'il y avait deux équipes qui s'affrontaient au Super Bowl. Une équipe qui parle de retraite de ses joueurs, puis une autre équipe qui se dit « Hey, wow, nous autres, on est là pour longtemps. » là. Et qu'est-ce que vous voyez dans l'avenir, dans votre boule de cristal, là, qu'est-ce que vous voyez qui va arriver dans les séries, mais aussi qui va dominer la Ligue pour se rendre au Super Bowl l'an prochain?
Ben, première des choses, moi, j'ai même pas les Bengals comme favoris là, dans la conférence américaine. Ils vont être dans le mix, fort probablement, mais pour moi, il y a un chiffre majeur aussi des forces, là. La grosse force maintenant dans la NFL, c'est la conférence américaine. Ouais. Puis ça va vraiment être difficile de voir qui peut sortir de là à chaque année. Je serais vraiment surpris qu'il y ait une dynastie qui se fasse parce que l'opposition est juste trop forte. Que ça soit les Bills, les Chiefs, je pense que les Chargers s'en viennent puis ils vont être vraiment tannants. Là, tu rajoutes les Bengals puis dans le... Il y a quelques points d'interrogation, évidemment. Là. Tu sais, je pense que la défense des Steelers est élite, mais s'ils trouvent un carrière, ça peut changer complètement la donne. Les Browns ont quand même un très bon alignement, puis ils ont été très décevants cette année. Je pense qu'ils peuvent revenir dans le mix aussi. Moi, je trouve ça très, très difficile à prévoir.
Imagine si
mon avis présentement, c'est les Bills qui vont, selon moi, sortir. Je pense encore que les Bills étaient peut-être la meilleure équipe de la NFL de façon globale. Ils ont vraiment pas été chanceux. Puis se sont tirés dans le pied un peu. Là. On reviendra pas sur le match, mais ça a quand même pris une solide malchance pour pas voir les Bills se rendre plus loin. Je pense que l'alignement des Bills est fort du début jusqu'à la fin. Sont en bas de le cap salarial, sont en bas de 4,6 millions, mais ils peuvent manœuvrer avec ça. Là. C'est pas la fin du monde. Moi, je m'attends à ce que les Bills soient dans le mix vraiment, vraiment encore l'an prochain.
Du côté de la FC, tu sais, moi, j'ai à peu près la même analyse que Jean. Puis les Bengals, juste pour donner une idée, là, tu sais, c'est non seulement c'est pas sûr qu'ils se rendent encore où ils se sont rendus. Va falloir, premièrement, avant de se prononcer sur quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur ligne à l'attaque. Ça, c'est exact. La première des choses, là, parce que tant qu'il n'y a pas de changement, puis des changements importants, on s'entend, là, pas un petit changement tranquille. Là. S'ils font de gros, gros, gros changements, moi, je les vois encore dans le mix. Sinon, écoute, ça ne se reproduira pas ce qu'ils ont vécu. Puis, non seulement, c'est pas sûr qu'ils se rendent là, mais regarde leur division. Tu sais, Jean, tu as mentionné les Browns, mais les Ravens vont être encore dans le coup.
Ben oui.
Puis écoute, je suis même prêt à dire que si les Steelers font un gros move au poste de corps arrière, c'est un gros si, là, parce que c'est pas le genre d'équipe souvent qui fait un splash dans le marché des agents libres. Mais admettons qu'il y a un joueur qui devient disponible, qui vont le chercher, qui ont un corps arrière prêt à jouer maintenant, c'est une équipe qui peut encore brasser. Les Chargers, je les vois encore aussi dans le mix. Puis l'année prochaine, moi, j'ai les mêmes... écoute, je vois encore une finale, ben même si c'était pas le cas cette année, mais la finale de division qu'on a eue entre Chiefs et Bills, c'était moi, je la vois vraie. En finale de conférence. Ouais. Fait que c'est ça. Du côté AFC...
Parce qu'il reste que les Bengals, on parlait d'eux comme d'une équipe Cendrillon, c'est pas pour rien, là.
Non, faut que tout retombe aux les morceaux à bonne place, mais comme je
te dis... Je vais pas faire une comparaison boiteuse, là, mais disons que personne n'en voit les Canadiens au final de la Coupe Stanley cette année, là. Il y a un moment donné où il y a des équipes où tout s'enligne bien, tu passes, t'arrives à la fin, mais là, à la fin, t'échoues, mais t'as fait un parcours où tout s'est bien aligné, là.
Faut quand même donner du crédit, je dirais, aux visionnaires des Bengals, parce que ça reste que s'ils repêchent pas Ja'Marr Chase puis ils repêchent un joueur de ligne en attaque, ouais. L'an passé, je pense pas qu'ils se rendent au Super Bowl. C'est une façon qui est un peu bizarre de bâtir son équipe. C'est pas celle que j'aurais privilégiée, parce que si tu fais pas attention, ça se peut que tu te ramasses comme les Colts quand Andrew Luck était parti parce qu'il était rendu trop magané puis se faisait frapper à chaque année. Ben là, c'est ça qu'il faut qu'ils solutionnent rapidement, les Bengals. Mais ceci étant dit, ils ont quand même pris un gros risque, puis le risque a quand même rapporté, les gars. Ils se sont rendus au Super Bowl, là. C'est que c'est pas rien.
Puis les Bengals, il y a quelque chose qui joue pour eux. C'est un élément là, peut-être qui frappera pas les gens, mais il y a une continuité. Ils perdent pas leur coordonnateur. Les deux coordonnateurs sont de retour. Tu sais, je pense que c'est un point important. Regarde, les Bills ont perdu Daboll. Les Chiefs potentiellement pourraient perdre Bien-Aimé. C'est quelque chose qui va jouer en faveur des Bengals, là, l'aspect continuité dans l'équipe. Puis juste la NFC un peu, parce qu'on n'en a pas parlé. En ce moment, là, et que c'est flou. C'est impossible de voir clair là-dedans. Est-ce que Rodgers va rester à Green Bay? Est-ce que les Saints vont aller se chercher un nouveau corps arrière, puis qui ce sera? Russell Wilson va-tu s'en aller de Seattle? Trey Lance à San Francisco à sa première année, est-ce que le club fait un gros pas en arrière? Tu sais, il va avoir une adaptation. Là, on parle d'un corps arrière qui a très peu joué sur la scène universitaire, puis pas dans un gros programme de surcroît. Là. Les Rams, on en a parlé. Est-ce que Aaron Donald s'en va? Est-ce que Sean McVay s'en va? Même lui, il a pas confirmé hier qu'il revenait pour 2022. Il a dit « Let's see, on va voir.
Yeah, » C'est incroyable. Là. Eux, ils sortent du Super Bowl avec toutes sortes de questions. Avant les séries, ils s'attendaient pas. Là.
Non, c'est ça. Fait que c'est
mais
tellement,
qui s'attendait à ce qu'Aaron Donald, avant le match du Super Bowl, dise « Ah, c'est peut-être mon dernier match. » Excuse what?
Non, c'est sorti de nulle part. T'sais, il y a 30 ans, il est ultra dominant. C'est pas comme si on se dit « Ouais, mais là, on sent venir un déclin. » C'est pas ça pantoute, Aaron Donald. On l'a vu, il a pris le contrôle de la game en deuxième demi. Fait qu'il y a tellement de flou dans NFC qu'une équipe pourrait se faufiler. Tu sais, je vois une équipe comme Dallas pourrait faire un bout si vraiment Rodgers est rendu dans l'AFC puis tout ça. Là. Donc, mais pour l'instant, écoute, c'est tellement pas clair l'horizon dans cette conférence-là que c'est bien difficile de se prononcer. Là. Les prochaines semaines vont nous en dire plus long. Là.
Si j'avais à voter tout de suite, moi j'irais avec les Niners. Un, ils ont fait beaucoup avec pas tant cette année. Je pense que Trey Lance, moi, ça va être un upgrade au poste de carrière parce que tu vas rajouter la dimension, il peut courir dans une attaque où ce que les gens ont déjà de la difficulté à les arrêter au sol en temps normal. Ouais. Et là, tu vas rajouter un carrière qui est capable de courir avec le ballon, ça va être tannant, là. Donc, s'il fait le moindrement le boulot au niveau aérien, c'est un club qui va être extrêmement dangereux. Au niveau du cap salarial, je pense que s'ils réussissent à échanger Jimmy G, il n'y a aucun problème. Ils sont en dessous du cap de 4,5 millions. Je pense que s'ils réussissent à échanger Jimmy G, c'est 26 millions qui vont éclairer.
Bon, ben, Jean, si tu veux bien, on va en parler après la pause de ça, parce que là, mine de rien, avant le prochain match de NFL, c'est plus que 200 jours, là, à l'heure où on se parle. Fait qu'on a, on va devoir trouver des sujets si on veut regarder nos médias sociaux puis être intéressé par ce qu'on publie, parce qu'il va y avoir sans doute des joueurs qui vont changer d'adresse pendant la saison morte. On va en parler après la pause. On va parler de la saison morte, mais aussi du repêchage qui s'en vient. Bougez pas.